Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Quel est l'impact de ce projet du gouvernement congolais? Docteur Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, est notre invité. Bonjour Docteur Polydor Mbongani. Bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique? Le standard est ouvert, composez les 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Mimi Kindou assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou, il est à la coordination. Micro, Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Bien, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris des mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé maternelle et infantile, notamment en rendant certains services gratuits. Cela inclut les consultations prénatales, les accouchements et les soins postnatales pour les mères et pour les nouveau-nés. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures peut varier en fonction des provinces et en fonction des infrastructures disponibles. Il est toujours recommandé de vérifier auprès des établissements de santé au niveau local pour obtenir des informations précises et à jour sur les services disponibles, car cette couverture médicale ne couvre pas toutes les interventions chez la femme enceinte et voilà, chez son bébé. Alors, quels sont les soins que couvre le programme de la gratuité de l'accouchement et des soins des nouveau-nés en RDC? Comment se déploie ce programme à travers la République et quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ces vastes projets sur l'ensemble du territoire national? Eh bien, on va faire le topo, le point de la situation avec notre invité. Il s'agit de Dr. Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle. Dr. Polydor Mbongani, encore une fois, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Moi de même. Alors, parlez-nous d'abord de ce programme de la gratuité de la maternité qui a été lancé par le président de la République. Je ne sais pas, quelques temps après le lancement, quel bilan on peut dresser aujourd'hui de ce programme?
Merci encore une fois de plus. Je salue les auditeurs et auditrices qui nous suivent ce matin. Comme vous l'avez dit, le programme de la gratuité de l'accouchement, c'est pas réellement gratuité de l'accouchement. La gratuité de la maternité et de la prise en charge du nouveau-né a été lancée par le chef de l'État, président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, le 5 septembre 2023. Et ça, c'était comme le premier paquet de soins du programme de la couverture santé universelle, qui est dirigé par lui-même au sein du Conseil national de la couverture santé universelle et coordonné par la coordination du Conseil national que je dirige. Donc, en termes d'avancée, nous avons déjà, sur le plan géographique, si je peux ainsi dire, nous sommes étendus dans plusieurs provinces. Nous sommes pour le moment dans 14 provinces sur les 26 que compte notre pays, dont 3 qui sont sous financement propre du gouvernement et les 11 autres sont... nous sommes appuyés par la Banque mondiale. Mais évidemment, bien sûr, c'est toujours mis en œuvre par le gouvernement et aussi en collaboration avec le Conseil national de la couverture santé universelle. Ça, c'est en termes géographiques. Et en termes de données, nous avons couvert beaucoup d'accouchements avec ce programme. Depuis son début jusqu'à ce jour, il y a plus d'1,5 million femmes qui ont accouché gratuitement.
Dans
ces 14 provinces.
Okay.
Et là, je compte depuis septembre 2023, bien sûr. Donc, ça fera bientôt, dans quelques mois, ça fera 2 ans que nous avons commencé. Et je suis certain qu'on va dépasser le cap de 2 millions d'ici septembre. Et donc, c'est ça, déjà, les premières données. Et bien sûr, on a pris soin d'autant d'enfants. Quand ils sont nés, immédiatement, ils ont été examinés pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Et les enfants malades ont été pris en charge, avec comme conséquence, bien sûr, des accouchements plus sécurisés et des enfants qui sont pris en charge immédiatement quand il y a des complications.
Voilà. Alors, une autre question est de savoir quels sont les facteurs qui ont motivé le gouvernement à initier ce programme de gratuité de la maternité.
Alors, la couverture santé universelle, c'est là deux objectifs principaux. Le premier, bien sûr, c'est ce que nous appelons la protection financière des utilisateurs. Mais la deuxième aussi, c'est donner accès à des soins qualité et des soins équitables. Mais pour le faire, comme vous savez, les besoins en santé sont illimités, mais les ressources sont limitées. Et donc, il faut y aller progressivement, mais on ne le fait pas au hasard. On le fait sur la base des choix. Et ces choix sont dictés par ce que nous appelons l'épidémiologie. Et particulièrement ici, nous avons considéré le facteur de mortalité et de morbidité. Quels sont les problèmes qui nous causent le plus de mortalité et de morbidité en RDC? Et il a été tout de suite évident que la santé de la mère et de l'enfant constitue le plus grand poids de la mortalité proportionnelle en RDC.
Mmh. On dit souvent que les femmes meurent en donnant la vie.
C'est ça. Et ce qui est une contradiction totale. Et une tragédie même, je dirais. Parce que ça devait, tout accouchement devait être un événement heureux. Mais nous avons connu ici pratiquement une hécatombe. Plus de 600 femmes pour 100 000 naissances qui meurent en donnant vie. Et puis aussi 25 enfants plus ou moins sur 1000 qui naissent meurent à la naissance. C'est une hécatombe. Nous étions, quand nous avons commencé avec ce programme, parmi les pays qui étaient le plus affectés.
Mmh. Ouais. Bien, alors quels sont les soins que couvre ce programme de gratuité de l'accouchement?
Déjà, je vous ai entendu dire que ça couvre pas tous les besoins de la femme enceinte. En réalité, ça couvre tous les besoins de la femme enceinte. Tous les besoins. Et je vais vous expliquer. Mmh. Quelques exceptions près, mais les exceptions s'expliquent aussi scientifiquement. La première des choses que ça cause, c'est la consultation prénatale, bien sûr. Quand la femme connaît qu'elle est enceinte, et elle a droit à aller voir un médecin, ou même quand elle soupçonne qu'elle est enceinte, elle peut accéder à un centre de santé. C'est là d'ailleurs ce que nous recommandons, commencer par un centre de santé le plus proche. Elle se fait examiner, on fait un diagnostic de grossesse, quand c'est confirmé, elle continue avec sa consultation prénatale.
Alors, la gratuité couvre seulement le moment de l'accouchement ou ça couvre aussi toutes les consultations,
oui, mais
les
c'est
CPN
ça.
Dès les débuts jusqu'à...
Dès le début. C'est pour ça que je parle de la gratuité de la maternité plutôt que de la gratuité de l'accouchement.
De l'accouchement, d'accord.
C'est ça la raison. Oui. Et donc, la femme tombe enceinte et on fait le diagnostic, on couvre déjà la consultation prénatale, la première, et on couvre 4 pendant une grossesse. C'est ça les règles. Mmh. Et alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Ben, la femme, elle n'est pas différente d'autres personnes. Elle peut tomber malade pendant la grossesse. Toutes les maladies qui surviennent pendant la grossesse sont couvertes, quelles qu'elles soient.
Si elle avait une hypertension, c'est la malaria.
Si l'hypertension, du moment qu'elle est enceinte, toutes les pathologies, toutes les maladies qui surviennent pendant la grossesse sont prises en charge. Et même, au-delà de ça, nous prenons la femme pendant encore un autre mois, donc pour la consultation postnatale. Mmh. Et pendant le mois qui suit l'accouchement, s'il développe des complications liées à la grossesse, nous prenons en charge, dans le cadre du programme. Et bien sûr, la prise en charge de tous les enfants nouveau-nés malades, jusqu'à 28 jours. Voilà ce qui est pris. Alors, les quelques exceptions, c'est il arriverait que, bon, pour des raisons personnelles, une femme demande plus d'échographie que ce qui est prévu dans le programme. Et là, ça devient des choix personnels, et là, on ne peut pas couvrir. Ou alors, il y a des femmes qui refusent de suivre ce que nous appelons la pyramide sanitaire, parce que ce que nous conseillons, c'est qu'une femme doit commencer ses soins à un centre de santé, le plus proche de là où elles habitent. Et puis, s'il y a on trouve qu'il y a des raisons, elle peut être transférée à un hôpital général de référence ou à un hôpital secondaire, et même à un hôpital tertiaire. Mais il y a des femmes qui font le choix d'aller directement à un hôpital tertiaire. Un choix personnel qui n'est pas justifié par des indications médicales. Dans ce cas, la consultation prénatale peut être mise à la charge du patient ou de la patiente. Mais nous sommes en train de discuter aussi avec les établissements de soins de santé que s'il arrivait que les femmes, par hasard ou par accident, se retrouvent là-bas, au lieu de les renvoyer, qu'on les prenne en charge, mais en les traitant, les factures qui nous seront envoyées seront comme celles d'un centre de santé. Mais nous voulons éviter ça, parce que ça va déséquilibrer le système.
Mmh. Voilà. Alors, est-ce que ce sont seulement les hôpitaux, disons, du secteur public qui bénéficient de ce programme ou les privés aussi en sont bénéficiaires?
C'est tous les deux, en fait.
Tous les deux.
Déjà, pour la ville-province de Kinshasa, la majorité des établissements de soins ne sont pas des établissements de soins publics. Nous avons bien sûr les conventionnés, nous avons aussi les privés-privés. Et avec qui nous travaillons, nous avons les conventions. Les conventions sont signées avec tout le monde, tous ceux qui veulent adhérer. Il y a des grands hôpitaux ici avec une de grosses renommées qui sont dans notre programme et qui ont l'air accepté et qui se portent bien du fait de ce programme. Mmh. Pour la seule différence, c'est que pour les établissements publics, bien sûr, nous encourageons aussi l'investissement direct. Mais pour le moment, au début du programme, nous nous sommes dit que nous investissons pour tout le monde. Quand nous faisons de la distribution des équipements, par exemple, ou des médicaments, nous appuyons tout le monde. Nous n'appuyons pas que les publics. Mais avec le temps, bien sûr, nous allons nous organiser de manière à appuyer davantage le public, parce que l'idée, c'est de faire remonter aussi le public, tout en ne décourageant pas le privé. Donc, oui. On va continuer à appuyer le privé, mais à plus forte mesure, le public.
Le public.
Voilà.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du programme des gratuités de la maternité et des soins des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne l'honorable Eric Kinzambi, élu de Bandundouville, et gentil depuis Kananga, Malandjou Anshinga. Honorable Eric Kinzambi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation, honorable?
Bonjour aux journalistes et à l'invité. Intéressant pour toutes nos communautés. Mais je voulais d'emblée féliciter le chef de l'État pour avoir pris l'initiative de mettre en place ce programme, d'accompagner surtout les familles démunies par le programme, pour ce programme de la maternité gratuite. Mais ce programme, ce que je déplore, je parle spécialement des ma circonscription électorale, Bandou Nouvelle. Depuis que ce programme a commencé, les hôpitaux de Bandundu ne reçoivent aucun soutien du programme. C'est comme si on a donné un mot d'ordre, mais qui n'est pas suivi. Vous savez que dans les hôpitaux de Bandundu-Ville, dans les maternités, il n'y a pas de couveuse. Il n'y a pas de couveuse pour les enfants prématurés. Dans toute la ville, les chefs-lieux de la province, les bébés qui naissent prématurément sont gardés à côté Batie Milangiama Yamoto, de part et d'autre de l'enfant, pour qu'ils survivent. Les mamans, les pauvres infirmières, comment on appelle, qui aident les mamans à accoucher, ne sont pas prises en charge. Même les produits pour accompagner les accouchements. Je vous dis, on est en train de... Donc, ce programme n'est qu'un vain mot jusque-là. Alors que le chef a mis toute son énergie pour mettre toute sa population dans de très bonnes conditions. Alors, je me demande, pourquoi deux poids, deux mesures? Ou bien, on cherche à mettre en difficulté tous les projets du chef, on ne comprend rien.
D'accord, merci.
Voilà, ça c'est...
Merci, honorable Eric.
Ma circonscription électorale.
D'accord, merci pour votre préoccupation. Docteur Polidor va répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Gentil depuis Kananga, dans les Kasaï centrales. Gentil, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous les auditeurs qui me suivent en ce moment. Pour le moment, je suis dans la ville de Kananga. En fait, mais je suis précisément dans mon territoire de Kazumba secteur de Mbulongo, dans les groupements de Benangas, en train de visiter vraiment les villages. Mais en fait, pour le sujet du jour, nous saluons cette initiative du président de la République pour la volonté manifestée à travers les femmes enceintes dans tous les territoires nationaux. Mais si je dis l'impact de la gratuité des soins au centre local, nous remarquons qu'il y a des manques des autres médicaments pouvant aider les femmes quand elles sont malades. Vous remarquerez que vous êtes au centre de santé et que les centres de santé manquent aussi d'autres médicaments pour bien aider la femme parfois grosse, et on vous excuse mais d'aller acheter les médicaments en dehors, juste dans les pharmacies, pour que ces derniers puissent traiter efficacement la femme. Alors, la question que je demande aussi à l'invité, dès qu'on a pris les mesures pour améliorer l'accès aux soins de santé maternelle et infantile, en les rendant gratuits, alors comment les gouvernements ne veulent pas disponibiliser les médicaments efficaces qui doivent directement traiter au lieu d'envoyer seulement les paracétamol, parfois les dolarins et tout comme ça, puisque nous avons vraiment du mal dans nos centres de santé. Précisément aussi, je suis au village pour le moment, précisément dans notre centre de santé, je suis à Kamboulo, alors dans les Koumas de Benarang. Pourquoi vraiment nous manquons des médicaments efficaces qui peuvent vraiment aider les femmes partout là?
D'accord, merci. Parfois, gentil.
Bon, nous sommes en train de...
D'accord, on a compris la préoccupation. Il n'y a pas assez de médicaments dans les centres, pour la prise en charge des femmes. On va accueillir l'ingénieur Liévin depuis Loupatapata, dans la province du Kasaï oriental. Ingénieur, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, ingénieur Liévin?
En tout cas, c'est une initiative que nous saluons. Nous saluons ce programme de grande envergure qui vient tant soit peu soulager surtout les femmes et les enfants dans les zones rurales. Mais néanmoins, nous avons constaté que plusieurs structures sanitaires ne sont pas prises en charge, donc ne bénéficient pas de ces projets. Prenons l'exemple. Dans mon territoire, nous avons des zones de santé. Nous avons la zone de santé de Tichimbi et la zone de santé de Mukumbi. Nous constatons que dans la zone de santé de Mukumbi, il y a 16 heures de santé, 9 seulement bénéficient de ce projet et les autres aires de santé ne bénéficient pas de ce projet. Et deuxièmement, dans la zone de santé de Tichimbi, sur 15 heures de santé, 3 ne bénéficient pas de ce projet. Et les aires de santé qui ne bénéficient pas de ce projet, c'est là où il y a beaucoup de la population. Alors, ma question, c'est à ce niveau. Quel est le mécanisme que le gouvernement va mettre en œuvre ou sur pied pour les contrôles et les suivis de ces programmes? Et deuxièmement, pourquoi les BSNZ, les bureaux centrales des zones, ne sont pas associés à ces projets? Parce que quand le médicament arrive, directement, ces médicaments sont orientés dans les aires de santé. Est-ce que le BCZ, sur quelle base? Parce que le BCZ ne connaît même pas la clé de répartition de ces médicaments. Alors, est-ce que le BCZ ne pourra pas aussi faire le suivi ou le contrôle de ces médicaments pour suivre vraiment de près l'effectivité de ces programmes?
D'accord, merci ingénieur Liévin. Monsieur Kachai, vous êtes à Kanyuka, bonjour.
Bonjour monsieur Jody Daniel Kachama, bonjour à l'invité de la radio Kapi et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Je pense que Kanyuka c'est dans le Kasaï central.
Oui, Kanyuka, nous sommes dans le Kasaï central, un village à 5 kilomètres de la ville de Kananga.
Bien. Alors, quelle est la question par rapport à la gratuité, le programme de gratuité de la maternité?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je confirme qu'à Kanyuka, le programme est effectif. Mais il y a des problèmes sérieux que les malades connaissent dans beaucoup de centres de santé. Monsieur Jody, avant que ce programme ne soit effectivement appliqué, il y avait beaucoup de médecins affectés dans certains centres pour permettre l'administration des soins appropriés aux malades. Mais depuis que le programme de la gratuité de la maternité est arrivé, il y a eu des couacs. Les couacs, c'est que les produits pharmaceutiques, les médicaments ne viennent pas régulièrement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les problèmes voudraient que les femmes qui viennent accoucher puisse accoucher sans verser les frais. Même s'il s'agissait de faire des césariennes ou accouchement par voie haute, il ne faudrait pas donner de l'argent aux médecins qui passent à cette opération-là. Mais depuis que le programme est là, monsieur, je dis ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe au centre-ville de Kananga, c'est quoi, mais Kanyuka est dans la zone de santé de Lukonga. Alors, les mamans payent l'argent pour passer à la césarienne lorsqu'il y a une complication d'accouchement simple. Ils payent l'argent. Et deuxièmement, monsieur Jody, un autre problème majeur sur lequel c'est la désaffectation de médecins qui étaient au centre. Dans beaucoup de centres, il n'y a plus de médecins. Les médecins sont dans les hôpitaux, pris en charge par le programme. Et quand il y a des cas de complications, il faudrait tout simplement amener la malade ou le malade là où se trouve le médecin. Et c'est une très longue distance, de Kanyuka jusqu'au centre-ville, du centre-ville jusqu'à là où se trouve l'hôpital pris en charge dans le programme de la gratuité de la maternité. C'est un autre problème de distance. Et cela engendre des risques, soit de la mort, surtout, ou des complications houleuses. C'est ainsi que nous avons pensé à ceci. D'abord, qu'il y ait l'affectation de médecins dans les centres de santé, monsieur Zébi. Ce problème n'est pas seulement à Kanyuka.
D'accord.
Même dans d'autres territoires de la province du Kasaï central,
oui,
il n'y a plus de médecins dans les centres de santé. Les médecins savent cela. Le gouvernement sait qu'il n'y a plus de médecins dans les centres de santé. On dit que comme le programme consiste à... Le programme est pris en charge non seulement par le gouvernement, mais c'est à travers la Banque mondiale.
Merci alors, beaucoup. On va vérifier si la Banque
mondiale... Nous ne pouvons pas supporter...
D'accord.
Nous ne pouvons pas supporter le médecin dans les centres de santé.
Merci beaucoup. Merci, Kachai. Oui, merci beaucoup pour ces préoccupations. Je pense que l'invité a tout suivi. Docteur Polydor, vous avez la parole.
Merci. Il faut que je n'ai pas de stylo, donc si vous pouvez
m'aider à reprendre
la question de l'honorable.
L'honorable Eric depuis Bandundu, oui. Il déplore le fait que les hôpitaux de Bandundu sont à l'abandon. Okay. Et il n'y a pas des couveuses, pas des médicaments. Ouais. Il se demande, mais pourquoi, est-ce que le Bandundu ne fait pas partie des 14 alors, provinces couvertes?
Si. Le Bandundu, en fait, le grand Bandundu fait partie du programme. Donc là, nous parlons de la province du Kwilu Maindombe ainsi que, Kwango.
Du Kwango.
Et Kwilu, c'est une des provinces qui est prise en charge en fait avec l'appui de la Banque mondiale et là nous utilisons bien sûr l'unité de gestion du PDSS qui aide à ce que ce programme soit implémenté là-bas. Donc c'est une unité de gestion qui est sous la responsabilité du ministère de la Santé. Alors je ne peux pas m'expliquer la raison réelle pour laquelle il n'y a pas de couveuse, parce qu'en réalité dans le programme, nous avons deux aspects, comme j'ai dit, il y a la protection financière des utilisateurs, mais il y a aussi ce que nous appelons l'amélioration de l'offre de soins. Et dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins, nous sommes en train d'équiper les centres de santé, les hôpitaux généraux de référence de façon primordiale.
Progressive
aussi, primordiale et progressive, mais aussi les hôpitaux secondaires et les hôpitaux tertiaires même, nous sommes en train d'équiper dans le cadre de ce programme. Et donc, s'il n'y a pas de couveuse, bien sûr, nous avons partout où nous déployons, s'il y a des plaintes, elles peuvent être remontées. Elles peuvent être remontées à notre niveau, elles peuvent être remontées au niveau du ministère de la Santé, et même elles peuvent être remontées de façon très facile. Il y a un numéro vert qui a été mis en place, le 151. Donc les gens peuvent appeler sans frais et reporter le problème, y compris l'honorable, bien sûr. Et ces problèmes sont pris au sérieux. Au besoin, nous envoyons l'inspection générale des santé. Ou d'autres enquêteurs pour se rassurer de la véracité des choses qui sont apportées, et nous agissons sur cette base. Et donc moi je me dis, alors une autre chose bien sûr, on ne peut pas mettre des couveuses partout. Déjà pour qu'on mette des couveuses, il faut qu'il y ait des gens qui sont formés dans l'utilisation des couveuses, parce que les couveuses ça peut être dangereux aussi. Et donc il y a tous ces faits, formation des prestataires,
il faut de l'électricité aussi,
il faut de l'électricité
pour les faire fonctionner.
Voilà, ça c'est la première chose. Et puis il faut une formation des prestataires à leur utilisation. Parce qu'une couveuse, ça peut brûler un enfant, par exemple, si elles ne sont pas utilisées de façon optimale et que le personnel n'est pas formé. Donc, il y a toutes ces choses que nous sommes en train de mettre en place Et je peux assurer l'honorable que nous sommes engagés à améliorer justement l'offre de soins et à assurer qu'il y ait une protection financière des utilisateurs quand ils ont accès aux soins qu'ils ne payent pas. Et donc, s'il y a des soucis, ils peuvent le rapporter, comme je l'ai dit, directement en appelant le 151.
Bien, gentil de Kananga dit que dans les hôpitaux, là où il est à Kazumba, il n'y a pas de médicaments, il est beaucoup plus revenu sur ça. C'est ce qu'il a
déploré. C'est encore...
Kachayi aussi l'a déploré, ouais. Il n'y a pas de médicaments.
C'est encore une province qui est couverte par la Banque mondiale, mais c'est pas une excuse, bien sûr. Parce que le programme est le même partout, en fait. Nous sommes supposés approvisionner les établissements en médicaments. Alors, mais il y a plusieurs... Nous avons examiné la question des médicaments, de leur disponibilité, parfois de rupture des stocks. Il y a des responsabilités qui sont portées parfois à plusieurs niveaux. La première responsabilité revient à l'établissement de soins. Et je vais vous expliquer qu'il y a des responsabilités partagées. Si un établissement de soins ne fait pas remonter ce besoin, cet établissement de soins ne recevra pas de médicaments. Le processus d'approvisionnement en médicaments commence par une réquisition qui est faite au niveau de l'établissement de soins, qui monte au niveau de l'équipe cadre des zones de santé, qui monte au niveau de la DPS et qui arrive maintenant à l'institution qui est responsabilisée pour l'achat et la distribution de médicaments. Dans le cas d'espèce de la couverture santé universelle, nous avons le fonds de promotion qui achète les médicaments et qui utilise les prestataires privés, donc les établissements pharmaceutiques de vente en gros, pour la distribution. Mais tout ce processus doit être respecté. Et ce que nous avons remarqué, c'est que parfois il y a des établissements qui ne font pas remonter leurs données. Parfois c'est l'équipe cadre de zone de santé, le médecin chef de zone qui ne font pas monter les réquisitions. Et parfois c'est la DPS. Toutes ces réquisitions arrivent et s'arrêtent à la DPS, n'arrivent pas à celui qui doit payer pour les médicaments. Et en ce moment-là, on ne peut pas livrer les médicaments. Ouais. C'est un fait. Et donc, nous sommes en train de travailler pour essayer de digitaliser ce processus et aussi travailler dans le cadre, ensemble avec le ministère de la Santé, qui est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'ANAMED, l'Agence Nationale d'Approvisionnement Médicaments, qui va vraiment s'assurer que cette chaîne d'approvisionnement de médicaments est beaucoup plus optimale. Il y a bien sûr des responsabilités au niveau le plus élevé aussi, hein, en termes de... par exemple, le Fonds de promotion de la santé qui reçoit des réquisitions qui traînent à payer les prestataires, les établissements pharmaceutiques de vente en gros. Et ça, nous adressons directement au moment où nous sommes au courant. Et donc, il y a cette responsabilité, il y a la lourdeur de la chaîne qu'il faut que nous, sur laquelle nous sommes en train de travailler pour améliorer.
Bien, et puis Kachayi a parlé de la césarienne, des femmes qui sont opérées, et césarienne n'ont pas d'argent, et puis la désaffectation des médecins.
Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces
deux questions? Je vais répondre à ces deux questions, en commençant par celle de la césarienne, en disant que tout accouchement, quelle que soit sa nature, que ce soit par voie basse ou par voie haute, c'est celle de la césarienne, est couvert par le programme. S'il y a une femme qui paye, encore une fois, rapportez. Faites une plainte. Appelez le 151 et nous allons nous charger d'envoyer des enquêteurs sur place à l'IPS, l'Instruction Provinciale de Santé, pour s'assurer de la véracité de la plainte. Et si cela est le cas, nous prenons des sanctions. Pour ce qui est de l'absence des médecins dans les centres de santé, c'est cela qui est normal, en fait. Un centre de santé ne doit pas être médicalisé. Il ne faut pas qu'il y ait des médecins dans les centres de santé. Les centres de santé sont dirigés par les IT, les infirmières titulaires. Pourquoi? Parce qu'un centre de santé ne gère pas les accouchements compliqués. Il ne doit pas gérer les accouchements compliqués.
Il ne fait que référer.
Si c'est un accouchement normal, ils le font.
Il n'y a pas de problème.
Si c'est un accouchement compliqué, ils ne peuvent pas le faire à un centre de santé parce qu'ils ne sont pas équipés. Et ne sont pas équipés en termes de matériel, même équipés en termes d'expertise, pour prendre les cas compliqués en charge. C'est ça aussi une des causes de l'augmentation de la mortalité. Et donc, la réforme consiste aussi à ce que nous puissions respecter cette pyramide sanitaire en se disant, est-ce qu'on a besoin d'un médecin au niveau de santé? Bon, on peut changer, bien sûr, hein, si on se rend compte qu'il y a des difficultés. Une des choses, c'est ce qu'il a évoqué, la distance. Et nous travaillons avec l'ARCSUS et l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle, pour justement adresser ces cas exceptionnels. Mettons qu'il y ait un centre de santé qui a une salle d'opération, ce n'est plus un centre de santé tout simple, ça devient un centre de santé de référence, et qu'il y ait des médecins qui sont qualifiés, nous les accréditons comme pratiquement un hôpital général de référence. Donc on peut leur donner exceptionnellement le droit de faire des accouchements compliqués, même des césariennes. Mais c'est
alors,
exceptionnel.
On peut déjà avoir aussi une idée sur les critères d'éligibilité des centres qui peuvent ou hôpitaux qui peuvent assurer le paquet des soins.
Tout à fait. La première des choses, bien sûr, c'est qu'ils doivent être en bâtiment dur. Vous voyez, on voit parfois des centres de santé qui sont en chaume.
Ça
va pas aller.
Ça, c'est déjà un problème.
Oui, ça, c'est exclu.
Il faut avoir des bons bâtiments.
Il faut avoir des bons bâtiments solides. Il faut avoir une source d'énergie de façon régulière. Il faut avoir une source d'eau de façon régulière, mais il faut aussi avoir un minimum d'équipements. Et il y a un nombre d'équipements, une liste d'équipements que l'autorité de régulation et de contrôle de la CSU, l'ARC CSU, a mis en place pour s'assurer que ces équipements essentiels sont là. Mais il faut aussi avoir une certaine capacité de gestion financière, démontrer que vous avez quand même une certaine capacité de gestion financière qui permettra ce que, quand on va verser les fonds, que vous pouvez les utiliser à bon escient. Il faut du personnel en nombre suffisant. Et quand je parle de nombre suffisant, c'est soit on a des situations où il n'y a pas assez de personnel, mais on a aussi des situations où il y a trop de personnel. Quand on a un pléthore, il y a une désinvolture dans la manière de faire les choses. Parce que la majorité de prestataires de soins qui sont dans les hôpitaux où il y a pléthore ne sont pas très engagés. Parce que, bon, il n'y a pas de travail, en fait.
Oui, bien sûr.
Oui. Si c'est du travail pour 10 personnes, vous êtes à 100. Certains vont tourner les pouces. Vous venez au travail une fois le 3 mois, enfin, oui. Vous voyez, et c'est pas efficace ça. Et donc ça, c'est des choses, des critères qui sont pris en compte parce que ça a aussi des conséquences en termes de paiement des prestations. Quand nous payons les prestations, nous ne payons pas parce que vous avez 1000 personnes au lieu d'en avoir 100. Nous payons pour les services que vous avez rendus. Et quand ces frais arrivent au niveau de cet établissement, ça crée des crises parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour distribuer à tout le monde.
Oui.
Et donc c'est des critères comme ça qui sont mis en place. Bien sûr, la qualité du personnel, la qualité d'équipement, entre autres comme autres critères.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'impact de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés en République démocratique du Congo. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez les 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Montons son, notre, votre, l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05. Rediffusion dimanche à 6h30, lundi à 14h20 et 20h15 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Bien, quel est l'impact de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés? Voilà, ce programme lancé par le chef de l'État depuis septembre 2023. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a eu un impact considérable? Il y a par exemple baisse de la mortalité maternelle et infantile. Je vais donner la parole tout à l'heure à notre invité. Il s'agit du docteur Polydore Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle. On va accueillir deux autres auditeurs qui sont en ligne, Elvis Kawoya de Kinshasa. Et Monsieur Malonga depuis Bandunduville. Elvis de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ouais, je voulais dire peut-être donner un témoignage personnel, hein. Parce que c'était peut-être en 2024. C'était un problème de ma femme. Alors, parler de la gratuité de la maternité, c'est pas comment les gens les vivent. Parce que ici, je parle de moi, de ma femme. Oui. En 2024, ma femme a été enceinte. Nous sommes allés au Meko, à Matete. C'est ça ici. Alors, on a payé l'argent des fiches et tout ça. On a commencé à suivre les soins. Alors, elle a commencé à faire des visites, des rendez-vous qu'elle avait. Elle a suivi. Lorsqu'on a commencé à faire des échographies, on a commencé à exiger de l'argent. Par exemple, l'argent pour lui faire l'échographie. Par exemple, on dit, là, ici, il n'y a pas du courant, il faut maintenant allumer le groupe. C'est-à-dire, les mercredis où il devait se rendre, il se rend au nombre de 30. Comment il cotise ça? Et 10 000, peut-être qu'ils vont allumer le groupe. Alors, dès qu'elle a fait l'échographie, le docteur m'a appelé, il m'a dit non, les cas que ta femme a, il ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas donner naissance sur la voie basse. Il faut, ça n'est pas la voie haute. Alors moi j'ai dit, alors qu'est-ce qu'il faut? Alors ma femme aussi, comme c'était sa première conception, elle avait aussi peur. On a dit non, on va voir ce qu'on va faire. Il a dit non, vous allez seulement acheter les médicaments et on va l'opérer pour qu'on puisse sauver l'enfant. Parce que c'est selon l'examen, selon l'échographie qu'on a fait. Le résultat qu'il m'a donné, il m'a donné un résultat qui a donné au-delà de 600 000. Ici à l'Omeco, ma tété. 600 000. Il m'a dit non, il faut ça pour acheter les produits, tout ça pour que ta femme soit sauvée, aussi, ou puisse sauver aussi l'enfant. Alors, peut-être avec l'impossibilité qu'on avait, je suis venu me concerter avec la famille. On a dit non, on peut me voir dans d'autres, zones de santé, peut-être pour accoucher facilement. Malheureusement, on ne l'a pas tenu parce que nous sommes allés, parce que vu qu'on nous a demandé beaucoup d'argent comme ça, nous sommes allés dans un centre de santé à Maine, toujours au Matité. C'est un centre de santé là. Alors, ça a compliqué au niveau de voies basses. Il voulait enfanter. Maintenant, la face est trouvée, la tête est sortie, mais au niveau des épaules ici, c'était bloqué. Alors, on nous a transféré directement de l'essence de santé jusqu'à là. Dès qu'on nous a vu, on a dit non. Il a dit, c'est marqué. Comment je vous ai dit? Je dis, il faut faire ça. Moi, je lui ai dit non. L'argent que vous nous avez demandé, je ne pouvais pas bénéficier de cet argent.
C'est oui, mais est-ce que cet hôpital-là est couvert par ce programme? Fait partie de
l'hôpital général. Structures. L'Omeco, c'est l'hôpital, zone de santé de Matete. Hein? C'est l'Omeco?
D'accord. Et comment l'histoire s'est terminée?
Alors, nous sommes revenus, comme c'était un garçon, et il a dit que non, comme il n'a pas assez de souffle, nous devons sauver la maman. Alors, on a remis l'argent, on l'a un peu déchiré là en bas dans son organisme, on a fait sortir l'enfant, l'enfant était déjà mort. Après quelques temps, je peux dire ça parce qu'elle, et pas parce qu'elle a fait un faux couche, un mort-né au mois de décembre. Nous sommes le mois de mars 2025, le mois de mars 2024, elle est tombée enceinte pour la deuxième fois. Et on a voulu rentrer là, elle a refusé. Nous sommes allés au Saint-Joseph. J'ai toutes les fichiers. La preuve pour qu'on puisse consulter un fiche, parce que là, on dit la gratuité, c'est seulement lorsqu'on vient enfanter. Mais comment il récupère de l'argent? Parce que la fiche, forcément la fiche, c'est ça 20 dollars, et ça 20 000. Les examens qu'il devait faire, les examens, tout ça, c'est 105 000. J'ai tous ces données qu'on m'a données. Mais heureusement, là-bas, peut-être ça a tenu parce qu'on est venu encore, et c'est le dimanche qu'elle a mis au monde une fille. Mais ça va, mais je vous dis.
Mais vous n'avez pas payé pour son accouchement, vous n'avez rien payé. Vous avez payé seulement l'argent de la fiche, hein?
Oui, là-bas, parce que là-bas, on a fait deux fois l'échographie au Saint-Joseph. On a fait la première, c'est pour 70 dollars. La deuxième, c'est pour 45 dollars parce qu'on l'a fait au centre IMA, imaginaire ici à Matete. Alors, on a rapporté les résultats. Mais avec l'opération qu'on a faite le dimanche passé ici, parce qu'on a fait le dimanche passé, et on n'a pas payé l'argent, mais les médicaments aussi, on n'a pas payé. Mais il y avait peut-être du savon pour on a payé peut-être au moins 40 dollars ou 30 dollars comme ça.
Bien. Donc, vous voulez dire que malgré la couverture, mais il y a toujours des frais qu'il faut débourser. Il y a toujours l'argent oui. d'affiche et autres. Merci beaucoup. On va donner la parole à Malonga de qui est à Kinshasa. Bonjour Malonga, et quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody. Et bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, je peux dire d'abord à la Kinoiserie et Simba Kinango, la couverture santé. En tout cas, ça tenait. Mais malheureusement, pour l'impact, ça a donné l'avantage aux médecins qui travaillaient ou bien qui travaillent dans de formations hospitalières publiques. Puisque, comment ça je dis, moi je vais demander à l'invité qui est là, est-ce qu'une femme qui met au monde dans une formation médicale publique, il n'a pas droit aussi au traitement après la naissance. Puisque ce qui se passe souvent dans des hôpitaux, si une femme met au monde, même si elle saigne, même si elle souffre, elle doit encore acheter des médicaments, tout. Seulement l'accouchement qui est gratuit, mais le traitement des femmes accouchées n'est pas gratuit. C'est par là où il y a un problème. Raison pour laquelle qui donne l'avantage à ces médecins-là qui ont leur centre de santé privé, les patients commencent à échapper les formations hospitalières publiques pour aller à ce centre privé pour bénéficier un bon traitement. Or, ce qui crée ça, ce sont ces spécialistes-là de la santé, qui sont et au public et au privé. Alors, en tout cas, l'impact est avantageux aux médecins.
D'accord, merci.
D'accord. Dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux, parce que parfois ils amènent les malades dans leur centre privé. Merci. Ismaël Mompoy, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Ah oui, en très de jour, je dirais que c'est un bon programme. Merci beaucoup à l'initiateur de ce projet que le président de la République. Mais ce que nous pouvons dire aux autres, c'est que un accouchement, c'est un fait naturel, mais qui dit parfois des douleurs qu'on sort. On sait que l'accouchement ne prend pas beaucoup de gestes et beaucoup de dépenses, que les exercices physiques et médicaux qu'on exerce par un infirmier, par un médecin ou par une accouchère. Bon, disons, les grands problèmes et les grands soucis, parce que c'est officiel, bon, cette difficulté semble aussi comme la gratuité de l'enseignement, c'est de la même manière. Ce qui est un peu nécessaire, c'est d'équiper les centres de santé. Bien que chaque début a été toujours difficile, mais je pense que le gouvernement peut s'y adapter. Mais quand ceux qui disent, par exemple, pour les soins, vous imaginez, ces programmes pouvaient être plus alimentés des pharmacies, des centres de santé, des hôpitaux du milieu rural. C'est que au centre-ville, on a toute facilité. On peut faire la réquisition du centre vers, ce sont les deux services. Le médicament vient de la pharmacie et la pharmacie est une entité aussi de l'hôpital. Je pense que si l'État ou l'initiateur de ce projet peut quand même améliorer dans le sens que le milieu rural doit être plus ravitaillé que le centre-ville. Parce que maintenant, on se concentre qu'au centre-ville, mais on oublie un peu le milieu rural.
D'accord,
les
merci.
Les médicaments, c'est nécessaire, mais nous avons l'accouchement normal et anormal ou dystocique.
D'accord, merci beaucoup Ismaël. Justin, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Justin?
Oui, Monsieur Jody, merci pour la thématique. Oui, l'impact en tout cas de la gratuité de maternité, Monsieur Jody, j'ai dit un casse-tête. Nous, surtout, nous sommes à l'Est. Moi, je ne comprends pas si c'est un projet qui était dans le Sakarasen territoire où il y avait une cible à partir de Kinshasa, Lubumbashi. Parce que ici, en tout cas, à Bounia et ailleurs, en tout cas, ce projet n'est pas visible.
D'accord. Alors, donc vous déplorez.
Que je vais poser à
oui. Vous voulez savoir si les hôpitaux de Bounia aussi bénéficient de ces programmes ou pas.
Tout à fait, monsieur.
D'accord, on a compris. Merci beaucoup, Justin. Docteur Polydor Mbongani, à vous la parole.
Oui, merci à tous les auditeurs pour ces questions très pertinentes. Je commence par la question d'Elvis à Kinshasa. Je crois qu'il a rapporté une situation où il a eu à payer l'argent de l'affiche, des échographies. Et que l'hôpital Omeko demandait même ce qu'il paye, il contribue à l'achat du carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène.
Le groupe, oui, là.
Vous comprenez que ça, ce sont des choses, des irrégularités intolérables, en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le programme de la gratuité inclut les échographies, mais pas bien sûr les échographies à l'infini, hein, parce que, comme je l'ai dit encore, nos ressources sont limitées, même si les besoins peuvent apparaître illimités. scientifiquement, il y a un nombre d'échographies qui sont permises. C'est au maximum 2 qui sont vraiment justifiées. Mmh. Et au-delà de ça, ça devient problématique. Sauf si la femme a des complications, bien sûr. En ce moment-là, on justifie le nombre d'échographies par une raison scientifique, clinique. Et en ce moment-là, le Fonds de solidarité de santé, qui est notre assurance maladie, dans le cadre de la couverture santé universelle, paye. La même chose pour la fiche. La fiche n'est pas payante. Et je le répète encore une fois de plus, pour l'attention des auditeurs et auditrices, si on vous fait payer un seul service, n'importe lequel, dans le cadre de la gratuité, veuillez vérifier si c'est conforme, en appelant les 151. Et si ce n'est pas conforme, nous allons faire les enquêtes. Donc, du moment que vous appelez, cet appel n'est pas jeté dans les oubliettes. Il y a tout un processus de traitement de vos appels qui remonte jusqu'à l'inspection générale des santé qui fait les enquêtes. Et tous les prestataires qui se retrouvent pris dans des situations régulières et même, je dirais, qui ne sont pas professionnels, vont en payer, bien sûr, les conséquences. Parce que c'est ça, la loi. En fait, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est permis dans les règles du jeu. Il y a des règles du jeu pour tout. Et donc, l'achat de médicaments ne se justifie absolument pas, même pour les césariennes. Parce que, justement, ces hôpitaux sont approvisionnés en médicaments. Je l'ai mentionné déjà dans mes questions précédentes. Qui a un processus d'approvisionnement médicaments pour prépositionner les médicaments dans le cadre de la gratuité au niveau des différents établissements de soins. Et donc, je suis vraiment désolé d'apprendre que du fait de tout ce qui s'est passé là dans le cas de la femme de M. Elvis, qu'ils ont perdu un enfant. C'était complètement évitable. Et tout ça pour des gains. Je recommande à M. Elvis vraiment d'appeler les 150 et de rapporter son cas, nous allons faire le suivi. Et je peux le garantir.
Ou ceux qui sont dans les mêmes situations, peuvent.
Et même tous ceux qui sont dans la même situation, s'il vous plaît, n'hésitez pas, appelez les 151. Alors, M. Malonga Kinshasa, aussi, ou Malonga, je pense.
M. Malonga, oui. Qui dit que ce sont les médecins qui sont dans les hôpitaux.
Qui en profitent le plus.
Qui en profitent. Et puis, ils réfèrent les malades dans leurs centres privés.
Encore une pratique très condamnable, qui pèche contre la déontologie médicale, parce que c'est des choses qui ne doivent pas se faire. C'est pratiquement tricher le système. Et encore une fois de plus, je voudrais dire une chose. Les prestataires de soins, la majorité d'entre eux donnent de très bons services et suivent les règles déontologiques. Mais il ne manque pas de ceux qui essaient toujours de tricher le système. Mmh. Et notre travail, c'est que nous avons mis des mesures en place. Dans le cadre de la couverture santé universelle pour faire le suivi des soins que les gens sont en train de recevoir, nous assurer que les soins ont été effectivement donnés, nous envoyons ce que nous appelons des médecins conseils pour faire ce contrôle, avant même de payer pour les prestations. Mais il n'empêche que, bon, nous sommes à une année et demie à peu près depuis le lancement du programme, qu'il y a des gens qui ont de mauvaises habitudes, qui prendront du temps pour changer. Mais entre autres, c'est ça l'objectif.
Qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils gonflent les factures ou...
Bon, il y en a qui gonflent les factures. Mais nous ne payons pas pour les factures gonflées. Quand on trouve qu'elles ont gonflé, on ne paye pas.
Parce que vous prenez le temps de vérifier.
Bien sûr. Hmm. Nous faisons la vérification et même la contre-vérification.
Okay.
Pour nous assurer que on n'est pas en train de dilapider. Et si je vous dis le montant que nous avons épargné en termes du fait de la vérification, c'est dans les millions de dollars que nous avons pu épargner du fait qu'on a découvert beaucoup de cas de triche et que nous avons pu corriger. Et donc, c'est un travail qui est permanent et qui est en cours. Alors,
il y a Ismaël qui a parlé au niveau rural, en milieu, ouais. Est-ce qu'en milieu
ouais,
rural?
Ouais, mais j'ai dit ici que nous sommes dans 14 provinces, c'est pas seulement des villes, hein, et la majorité, par exemple, je veux vous dire que au Congo central, nous sommes partout.
Dans les territoires.
Okay. Mais alors, je vais peut-être en profiter pour répondre à la question de quelqu'un qui a aussi parlé de du fait que dans certaines zones de santé, on ne voit pas que nous sommes là. Nous sommes effectivement nous essayons d'être dans toutes les zones de santé. Mais comme j'ai dit, il y a des critères d'accréditation. Il est fort probable que dans une aire de santé, qu'on ne trouve pas d'établissement de soins qui est à niveau. Mais ce que nous faisons, c'est que nous avons ce que nous appelons un plan d'amélioration, qui fera que, au fur et à mesure que le programme est en train de mûrir et de grandir.
Oui.
Nous allons couvrir toutes les aires de santé avec des établissements qui sont accrédités.
Vous êtes déjà à 14 provinces, ouais, sur les 26,
ouais,
et les déploiements va continuer.
Le déploiement continue, pour autant que nous recevons le financement adéquat de la part du gouvernement. Et l'idée, c'est d'arriver à couvrir toutes les provinces d'ici la fin de l'année 2025.
Et est-ce que vous bénéficiez de l'appui de la Banque mondiale dans ce...
Oui, nous continuons à bénéficier de l'appui de la Banque mondiale pour les provinces, les 11 provinces que j'ai mentionnées déjà. Et là, cet appui va aller jusqu'à juin 2026. Et donc, le gouvernement devra prendre la main, à moins que nous qu'on ait un autre programme de la Banque mondiale qui continuera à couvrir au-delà de juin 2026 pour les provinces qui couvrent. Mais nous sommes en train de travailler dans le sens où le gouvernement prendrait tout en charge.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, docteur Polydor Mbongani, que le taux de mortalité maternelle et infantile a baissé sensiblement depuis le lancement de ce programme?
Oui, bon, il faut dire que, comme vous le dites, hein, donc ça fait les dernières données que nous avons eues sont des données qui nous ont été pourvues en termes de mortalité, qui nous ont été pourvues par l'École de santé publique de Kinshasa, qui a fait une étude en collaboration avec l'Institut national de santé publique et qui a démontré qu'il y a quand même une baisse de la mortalité néonatale, par exemple. La néonatalité néonatale du nouveau-né a baissé à 18%. Elle était à 25 quand nous avons commencé. 24-25 pour 1000 naissances vivantes. Et elle est à 18. Et donc, nous sommes en train de faire des progrès dans ce sens en termes de réduction de la mortalité. Et nous avons aussi déjà une tendance à la baisse de la mortalité maternelle qui a été aussi identifiée du fait de cette intervention. Oui, il y a effectivement des effets bénéfiques sur la mortalité.
D'accord. Et plus ou moins, vous avez parlé de nombre de femmes, qui, 1 million de femmes qui ont déjà bénéficié de ce programme. Ouais.
À ce jour, je dirais 1 500 000 femmes.
1 500 000.
Dans les 14 provinces, oui.
Et donc d'ici septembre 2025, probablement vous avez déjà touché 2 millions.
Oui, nous comptons toucher 2 millions. Mais on n'a pas fait que des accouchements, bien sûr. Il y a eu des investissements, comme j'en parlais tout à l'heure, dans le cadre de l'amélioration de l'offre des soins. Ça veut dire ce que vous trouvez quand vous allez dans un établissement, des médecins de qualité, bien formés, bien recyclés, des équipements, des médicaments, etc. Nous avons aussi investi dans les médicaments. Nous avons équipé plus de, en moyenne, je dirais entre 1500 et 2000 établissements de soins. Bon, j'ai dit 1500, c'est à peu près les établissements qui ont été équipés dans le cadre de la couverture santé universelle appuyée par la Banque mondiale, mais plus de 500 dans le cadre du financement propre de l'État.
Et donc, pour terminer, quels sont les défis qui restent à relever?
Les défis, En commençant, j'ai dit que nous visions deux objectifs majeurs. Protection financière et amélioration de l'offre, donc pour que les gens puissent avoir accès à des soins de qualité. La protection financière, je crois qu'on a atteint l'essentiel des objectifs, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de femmes qui viennent et qui se font traiter dans les hôpitaux. En fait, un signe qui parle, et vous pouvez en témoigner vous-même, je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez vu les femmes emprisonnées dans une maternité.
Parce qu'elle n'a pas payé les frais.
Parce qu'elle n'a pas payé les frais. Vous en voyez encore? Vous en entendez encore parler? Ça n'existe plus.
Ben, on va vérifier.
Ben, vérifier, ça n'existe plus.
D'accord.
Voilà, depuis que le programme a été lancé, dans partout où il est, il n'y a plus de femmes qui restent.
Il n'y a plus de femmes qui sont séquestrées.
Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de bébés qui poussent les dents dans ces hôpitaux. Voilà, ou dans le centre de santé. Et donc, maintenant, les autres défis, bien sûr, qui restent à faire, c'est le financement. Donc, la pérennisation du financement, et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour plus de financement dans le cadre de la couverture santé universelle.
Bien, merci beaucoup Dr Polydor Mbongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. À la prochaine.
Merci, merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.